RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, content de vous retrouver pour la discussion et du débat, bien sûr, comme tous les jours sur RMC, dans les GG, dans les grandes gueules. Normalement, vous savez que j'enchaîne en disant bonjour Olivier Truchot, sauf que Olivier ne sera pas là pendant quelques jours, mais c'est pour la bonne cause, figurez-vous, il se marie. Voilà, c'est confidence que je vous livre comme ça, c'est cet après-midi. Donc en fait, et même, je vais aller plus loin, dès que l'émission des GG sera finie, l'équipe des grandes gueules file au mariage d'Olivier Truchot. Donc on l'embrasse, on pense à lui et on lui dit à tout à l'heure. Mais aujourd'hui dans les GG, Sandrine Pégan, avocate. Bonjour maître.
Bonjour. Alors petite anecdote, j'ai rêvé de vous cette nuit.
Des GG ?
Oui,
d'accord. Je vous vois tout de suite.
Alors j'ai rêvé, je sais pas pourquoi, comme quoi, j'ai rêvé qu'en fait on avait créé une Marseillaise des GG, mais véridique, hein, que je meurs à l'instant si je mens. Et donc on avait fait une chanson qui était hyper bien rythmée, on la connaissait tous par cœur, voilà, donc c'était sympa d'avoir
pensé. Si t'as les paroles en tête, couche-les sur le papier,
et puis
qui sait, on pourra peut-être envisager de mettre une musique ensuite.
Et après, il y avait un débat sur est-ce qu'on a le droit de siffler la Marseillaise des GG ou pas.
Tu vois,
bonjour Jean-Loup Bonamy, monsieur le normalien, professeur de philosophie. Bienvenue mon cher Jean-Loup.
Bonjour.
Et puis Abel Boyi nous accompagne aujourd'hui. Il est éducateur. Bonjour Abel.
Salut les amis.
Nous recevrons tout à l'heure Sarah Knafo. Elle sera face au GG, la députée européenne Reconquête. Qui sera le candidat à l'élection présidentielle chez Reconquête? Est-ce que Sarah Knafo? Est-ce que
c'est Knafo?
Éric Zemmour, peut-être en discute-t-il le soir, dans la cuisine, on
sait jamais. Discute-t-il.
On posera la question, tu sais, comment ça se passe ces discussions pour la présidentielle dans le couple Zemmour-Knafo? Elle sera tout à l'heure avec nous à 11h. D'ici là, beaucoup de sujets de discussion. Il y aura des sujets graves qui nous interpellent, qui interpellent notre société. Ça tombe bien qu'on ait un éducateur, qu'on ait une avocate, un professeur aujourd'hui, parce que ça a beaucoup trait aux jeunes, les sujets à la violence que l'on va évoquer. Mais on va commencer d'abord par les révélations sur l'autopsie de Liana, qui révèle bien sûr l'autopsie des traces de viol. Et ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Liana, la collégienne de 11 ans, retrouvée morte le 4 juin dans le Gers après sa disparition. Les résultats de l'autopsie révèlent qu'elle a été violée. On ne connaît pas encore les causes de la mort. Et on a trouvé des éléments accablants, des traces de Jérôme Barella. C'est pas la peine d'en rajouter. Vous aurez compris de quoi il s'agit. C'était les éléments que l'on avait hier. On se souvient que cette tragédie a ému la France entière, démontré des dysfonctionnements de la justice. Elle a provoqué aussi beaucoup de réactions politiques avec des propositions, des réflexions. Le président Macron avait un peu choqué lors de sa première action en disant « on ne répond pas à un drame pareil avec des cris ». Et hier, il a encore apporté des précisions, Emmanuel Macron.
Il faut mesurer aussi qu'on demande à nos forces de plus en plus et qu'il y avait un continent caché. On a libéré la parole. Moi, je voudrais simplement vous rappeler que quand je suis élu, dans nos prisons, 7% des gens étaient détenus pour des violences sexuelles et sexistes. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus. Donc ça veut dire que oui, il y a encore des dossiers en souffrance. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont été arrêtés. On vit tous devant un sentiment de révolte face à ce qui peut être fait, parce que toucher un enfant, c'est la pire des choses. On ne doit jamais s'habituer. On doit toujours s'indigner. Mais cette indignation ne doit pas signifier l'impuissance et elle ne doit pas signifier la vindicte.
Alors moi, très franchement, Monsieur le Président de la République, je vois pas où est la vindicte en ce moment. Il y a de la colère, il y a de l'émotion. Il y a peut-être un concours de propositions politiques qui va trop loin, parce qu'on
concours l'épine.
On n'est pas forcément dans la rationalité, mais quand vous dites il y avait un continent caché, c'est quoi ce continent caché? Je comprends pas votre expression. C'est de dire qu'il y avait une espèce de non-dit sur la parole de l'enfant, mais les enfants on ne les croit pas. Et on l'a vu encore. On l'a vu encore avec l'histoire de la petite, de la mère de Rosa. C'est là où je me dis, Monsieur le Président, désolé de vous interpeller de cette manière. Et je comprends, vous devez être au-dessus de ce que vous appelez la vindicte, au-dessus de l'émotion, au-dessus des cris. Mais là, par exemple, il y a une proposition pour faire adopter une loi intégrale. Pour y en parler.
pourriez dire j'appelle le Parlement à se retrouver, j'appelle, même s'il y a la séparation des pouvoirs, j'appelle mon gouvernement, j'appelle le Parlement à faire preuve de consensus, à faire preuve de sagesse, à adopter cette loi intégrale, dire que peut-être dans l'année qui vient, vous allez mettre davantage de moyens. Là, je vous trouve complètement en décalage. Je ne sais pas ce que vous en dites, mes chers GG, je ne sais pas ce qu'en disent les Français qui nous écoutent au 32-16, Abel.
Et en plus de décalage, il y a une certaine inexactitude. Quand il parle de la libération de la parole, c'était plus les violences faites aux femmes via Marlène Schiappa notamment, qui, il faut le dire, a participé à ce que le sujet soit mis sur le débat public. Mais ce que les victimes attendent, c'est pas que l'on puisse en parler, c'est que l'on puisse agir et que la justice puisse suivre derrière. C'est ça le plus important pour qu'il y ait un minimum de réparation. En ce qui concerne les violences faites aux enfants et les questions de la pédocriminalité, je suis désolé, ça traîne toujours. Pour moi, la classe politique, en plus, est dans une
sorte... Elle est pas à la hauteur.
Elle est pas à la hauteur. Elle est dans une hypocrisie. On attend qu'il y ait un drame autour de Liana pour que tout le monde maintenant se révèle être expert en lutte contre la pédocriminalité, alors que, pardon, pendant les 10 ans de macronisme, j'en ai quasiment pas entendu parler. Les seuls qui ont gueulé, ce sont les éducateurs, ce sont les associations, vous recevez certaines personnes, ce sont certains psychologues, je pense à Johanna Rosenblum qui est sur BFM notamment. C'est sur le terrain que ça gueule, mais les politiques sont complètement larguées. Et là, la phase de la campagne présidentielle, de la pré-campagne a commencé. Aucun candidat ne parlait du sujet des violences faites aux enfants. Ils allaient tous sur le sujet de l'immigration parce que c'est ça qui est plus bankable. Donc maintenant qu'il y a l'affaire Liana, maintenant on prend en compte, ah oui, ben les enfants, faut les croire, faut, non, il y a un véritable problème. Et c'est un sujet qui gêne toujours. Je peux comprendre d'un côté que ça gêne parce que c'est dur de parler effectivement du fait qu'il y ait des enfants qui soient victimes de violences sexuelles. Mais lorsqu'on est politique et qu'on aspire aux plus hautes responsabilités et que surtout on dit qu'on veut investir dans l'avenir du pays, la priorité, ce doit être les enfants.
Mais surtout quand il dit Emmanuel Macron, il y avait un continent caché, la parole s'est libérée, mais... Le nombre de dossiers classés sans suite.
Le continent est toujours caché. Ben, la preuve, Gérald Darmanin parle de 70 000 plaintes à traiter en un mois.
Alors
donc
ça,
c'est qu'il
ça,
y a un
pardon,
problème.
Pardon, mais Abel, ça ne veut pas dire que la parole est, ou que c'est un continent caché, puisqu'il y a des plaintes. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont allées au commissariat ou à la gendarmerie pour dénoncer des faits.
Non, mais des plaintes, il y en a toujours eu.
Oui, mais c'est pour dire que la parole, du coup, elle s'est libérée. C'est pas un continent caché. C'est-à-dire que la personne est allée voir les services de l'autorité pour pouvoir, à un moment donné, dénoncer des faits dont elles estiment que les mises en cause.
Après, quand
ont une
tu parles de continent caché, je pense qu'il parle par rapport au rapport médiatique. Parce que même quand on prend les violences sexuelles sur les femmes, il n'y a que 10% des victimes qui portent plainte, il n'y a que 3% des dossiers qui arrivent au tribunal et qu'il n'y a que 1% des violeurs qui sont condamnés. Donc le continent est toujours caché en termes de paroles publiques.
Moi je trouve que Macron, en fait, il est déconnecté. J'ai l'impression qu'il n'a pas véritablement les mains dans le cambouis, tu vois. Parce que quand il dit « on a libéré la parole », d'accord, mais si la parole n'est pas écoutée, si la parole n'est pas entendue, à quoi ça sert ? À quoi ça sert que on demande à nos enfants d'aller justement dénoncer des faits, de se rendre à la police avec un représentant légal pour pouvoir dire « tiens, j'ai un animateur qui m'a fait ça, j'ai un oncle qui m'a fait ça », si derrière, malheureusement, elle n'est pas si entendue que ça. Si derrière, les fonctionnaires de police ne sont pas formés pour recueillir la parole de la victime. Donc ça sert à quoi ? On libère la parole si derrière il y a encore des dysfonctionnements, et je suis bien placée pour en parler.
Tu as des dossiers en cours encore là,
ah oui, bien sûr. Ouais. Malheureusement, on en a légion.
Et est-ce que tu sens que c'est plus difficile de faire avancer les dossiers concernant les affaires pédocriminelles que les autres ou pas ?
C'est pas une question de faire avancer ça de façon plus compliquée ou non, c'est juste toujours la réunion des preuves. Parce que quand un enfant vient à dénoncer des faits comme ça, encore faut-il qu'il les fait assez rapidement, encore faut-il qu'il y ait eu des constatations médicales qui soient effectuées juste derrière, puisque là, dans des dossiers médiatiques, il y a eu bien eu un problème où justement il n'y avait pas eu de constatation médicale, ne serait-ce que pour le, je crois que c'est le grand-père de Monsieur Barella, c'est son père.
Oui, c'est son père.
Et du coup, donc lui, il a eu un non-lieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas eu de constatation médicale sur les deux petites filles qui l'ont dénoncé. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est ça. C'est pas une question en fait de où la procédure a du mal à avancer. C'est une question de preuve.
En plus, ce qui est terrible, c'est lorsqu'il dit il y avait un continent caché, ça alimente du coup le fantasme du complot pédocriminel. Tu vois, de dire qu'on cache et qu'on verrouille et qu'on ne veut pas voir les affaires pédocriminelles. Alors, quand le président dit maintenant, aujourd'hui, on s'en occupe, et oui, mais on s'en occupe pas suffisamment. La preuve, les plaintes qui sont classées sans suite. Et d'ailleurs, la création aujourd'hui de ce site qui s'appelle classésansuite.com, où on montre, on dit, voilà ces plaintes qui ont été classées sans suite et où on veut les porter au grand jour. Jean-Loup Bonamy.
Moi, je suis toujours un peu surpris par ces histoires de « on a libéré la parole, c'était pas comme ça avant ». Je vais faire deux remarques. La première, c'est que je rappelle, parce que c'est un discours très célèbre, qu'on trouve très facilement sur Internet, mais c'est que, je crois, à la fin des années 80, au début des années 90, sous la présidence de François Mitterrand, il y a un homme politique, Roger Olyndre, cadre du Front National, compagnon de route de Jean-Marie Le Pen, qui fait un discours très célèbre dans lequel il parlait d'aller pendre les violeurs d'enfants. Il disait, si nous étions au pouvoir, eh ben, on irait pendre les violeurs d'enfants à un arbre. Discours extrêmement célèbre, qui tourne beaucoup sur Internet. Si Roger Olyndre a fait ce discours, c'est parce qu'on parlait déjà beaucoup de ce genre d'affaires dans l'actualité. Il y avait le livre de cette jeune fille allemande, moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, qui doit être un livre des années 70 ou 80. Moi, je me souviens, j'ai toujours entendu parler de ce genre d'affaires. Il y a eu l'affaire Dutroux qui avait défrayé la chronique. Après, il y a eu l'affaire Fourniret, il y a eu l'affaire Émile Louis. Donc, vraiment, il n'y a pas de... en fait, là, et à chaque fois qu'il y a une affaire, j'entends dire, ça ne sera plus jamais comme avant, on a libéré la parole, c'est nouveau. Moi, il n'y a aucune nouveauté. Je vois une triste continuité, une banale répétition du sordide dans cette longue litanie d'affaires depuis 40 ans. Bon. Et deuxièmement, je vois qu'Emmanuel...
Sauf qu'il y a une différence. Si, il y a une différence. C'est-à-dire que là, il y a des affaires pédocriminelles avec des violeurs en série qui ont été arrêtés. Là, ce que l'on déplore, c'est le dysfonctionnement dans la non prise en compte de la parole de l'enfant de la part des magistrats. C'est ça qui aujourd'hui choque l'opinion. Parce qu'après qu'il y ait des routiers du crime, comme on a vu Francis Saul ou Michel Fourniret ou d'autres.
J'anticipe ma deuxième remarque.
C'est que prévisible.
La deuxième remarque, c'est que justement Emmanuel Macron, comme toujours, comme sur tous les sujets, s'attribue à lui-même une couronne de laurier. Se donne un satisfecit pour son bilan. Il est bien le seul, d'ailleurs, et c'est pareil sur tous les sujets. Je veux dire, ces 9 ans de présidence ont été une longue catastrophe dans laquelle la France s'est enfoncée. L'État dysfonctionne sur absolument tous les sujets, mais Emmanuel Macron, lui, il est content. Tu vois, c'est comme la désindustrialisation. La France ne se réindustrialise absolument pas, mais il te dit, on réindustrialise la France. Bah là, c'est pareil. Il est le garant du bon fonctionnement de la justice. La justice dysfonctionne à 100%, elle est trop bureaucratique, c'est trop compartimenté, voilà, ça, on voit que ça ne va pas du tout, mais lui, il est content. Voilà, les violences faites aux enfants, tu vois, du périscolaire parisien jusqu'à l'affaire Liana, on voit que c'est une catastrophe, mais Emmanuel Macron, lui, il est très content. Il se met 20 sur 20 à lui-même.
Exactement.
Donc, on voit une parole qui, comme sur le niveau scolaire, s'effondre, mais lui, il trouve que c'est génial. Donc, qu'il a tout fait pour remonter le niveau. Donc, tu vois bien, à l'international, on est complètement méprisé, et lui, il trouve qu'on n'a jamais été aussi respecté qu'aujourd'hui. Il est bien le seul. Donc, tu vois, c'est toujours cette même logoré, totalement déconnecté et totalement en décalage par rapport à la réalité. Et pour moi, c'est une parole qui n'a plus aucune valeur.
Abel.
À force de tout et de rien dire, on critique Trump, mais excuse-moi, c'est rien comparé à Macron.
Et Abel, l'autre chose que l'on oublie quand, en ce qui concerne la lutte contre la pédocriminalité, le pédocriminel, il sait qu'il est vomi par la société. Donc, qu'est-ce qu'il va chercher? Même quand il va agir en solitaire dans la commune où il habite, il va chercher à entrer en contact avec d'autres pédocriminels sur Internet. Donc, la question des réseaux est très importante. Il y a un réseau qui vient d'être jugé à Orléans.
Oui, c'est où terrible. Il y avait un homme qui détenait 600 000 fichiers pédopornographiques chez lui.
Cumulé,
et 900 000 au total.
Exactement.
Donc, presque 1 million,
avec des enfants âgés de 5 à 15 ans qui ont été
pour des viols via Internet.
Voilà, 120 victimes avec des peines qui vont de 6 à 16 ans, si je ne me trompe pas. Donc, il y a la question des réseaux. Et c'est ça, le continent caché. On le dit toujours, que ce soit sur Snapchat, sur TikTok, sur le Darknet, ils sont organisés en réseau. Et c'est là où ils se fortifient. Ils vont même dans l'inversion accusatoire. La société ne nous aime pas. Ils se partagent des contenus comme des cartes Panini, des contenus d'enfants. Je veux une photo, une vidéo d'une petite blonde, d'un petit brun. Le réseau est hyper important et on ne veut pas en parler. Quand on prend Jérôme Barilla qui avait été signalé par les États-Unis pour des activités suspectes sur Internet. Mais il était forcément en contact avec d'autres pédocriminels. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on veut pas aller jusqu'à là, c'est-à-dire on arrête la personne et après on dit, allez, dossier classé. C'est comme Michel Fourniret. Plusieurs policiers ont témoigné que lui-même a dit dans ses dépositions que, malheureusement, il consommait, entre guillemets, des enfants.
Mais parce qu'on ne voulait pas croire encore en France à la thèse du criminel en série, du tueur en série.
Et il s'occupait de commandes, il disait, même pour des personnalités importantes en France et en Belgique. Et ce volet-là de sa déposition a été mis de côté. Donc, il faut s'attaquer au réseau. Parce que lorsque le
pédocriminel... Oui, mais les réseaux, ils existeront toujours, malheureusement. Tu sais qu'un pédocriminel, il y en aura malheureusement tout le temps, comme il y aura toujours des criminels aussi.
On n'en parle pas des réseaux.
Je voudrais qu'on écoute Nasser, qui est chef de service à appel de la Somme. Bonjour Nasser.
Bonjour.
Bonjour, vous voulez réagir, Nasser. Est-ce que vous avez trouvé, est-ce que le président est à côté de la plaque dans ses réactions ou pas, dites-moi.
Le président, la société, les médias, on va dire un petit peu tout le monde. Donc, je suis chef de service maintenant, mais il y a peu, j'étais éducateur dans la protection
ouais,
de l'enfance.
Je me souviens, vous nous aviez déjà témoigné, oui.
Ouais. Ouais, c'est ça. Et quand j'entends tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, moi, il y a rien qui m'étonne. Tout le monde est choqué, tout le monde en parle. Alors oui, là, il y a le meurtre d'une petite fille, et ça, c'est, il n'y a pas de mots pour ça.
Le meurtre et le viol.
Le meurtre et le viol, et il y a aucun mot pour définir ça, pour expliquer. Mais quand on est un professionnel de terrain, en fait, tout ce qui est violence sexuelle, inceste, viol,
c'est le quotidien.
Sur les enfants, en fait, ça c'est la vie de tous les jours quand on est dans la protection de l'enfance. Et à chaque fois qu'on en parle, même moi j'en parle aussi avec des personnes de mon entourage qui n'ont rien à voir avec la protection de l'enfance. C'est comme si on découvrait, quelque chose. C'est comme les fugues des adolescents en fonction du nom ou de du statut de l'adolescent, enfin du statut dans la société, il va y avoir des médias qui vont s'y intéresser, il va y avoir les journaux qui vont s'y intéresser. La protection de l'enfance, ça n'existe pas. J'ai accompagné des adolescentes déposer plainte à la police, on leur a demandé si elles étaient consentantes. On leur a demandé, bah oui, mais c'est toi qui as bien voulu y aller.
Oui, mais Nasser, ça, vous le savez. Vous savez que malheureusement, il y a des questions qui sont un peu gênantes, mais qui sont obligatoires. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a une femme qui vient pour déposer aussi pour viol, il y a des questions qui sont, mais on pourrait avoir l'impression d'être.
C'est
très intrusif, mais c'est une obligation.
Non, mais il y a des questions qui sont.
Allez, je vous en prie, Nasser.
C'est sûrement là où il y a la différence entre un avocat et chacun son métier. Ça, c'est votre métier d'avocate. Et un éducateur. Un éducateur ne peut pas concevoir qu'une enfant de 14 ans, on lui pose la question de est-ce que tu étais consentante pour qu'un mec de 50 ans rentre en toi. Exactement. C'est impossible à concevoir. Et au bout d'un moment, on peut sortir tous les mots qu'on veut. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de questions de ce type-là à poser à une enfant. On ne le sait pas. Quand on parle des évaluations psychologiques, vous savez combien de temps dure l'évaluation psychologique d'une enfant qui s'est fait violer ? Ça dure entre 5 et 10 minutes.
Ouais, donc c'est pas possible.
Ouais, mais le problème, c'est qu'après, si on leur pose pas la question.
C'est là où justement vous avez raison, Nasser. C'est là où on attend maintenant du politique qui fasse un constat. Je sais pas si le drame Liana mérite une commission parlementaire qui fasse le point précisément sur toutes les procédures, ce qui a dysfonctionné. Peut-être parce qu'on a fait des commissions parlementaires aujourd'hui sur des sujets ou des domaines qui n'en valent vraiment pas la peine. Alors que là, on a affaire à un dysfonctionnement national du point de vue de des forces de l'ordre, de la gendarmerie, du point de vue de l'autorité judiciaire, du point de vue de la justice. Et là, ça mérite une commission parlementaire et que ce soit au cœur de la campagne pour les élections.
Et en dehors de l'affaire Liana, rajoute également dans les dysfonctionnements de la sphère publique le scandale du périscolaire dont on va reparler et le scandale de l'aide sociale à l'enfance.
Oui, là, il y a un livre terrible.
Qui sert en fait de filière de recrutement à des proxénètes de mineurs. Donc on est quand même, et ça c'est quand même la sphère publique.
Nasser, je vous remercie d'avoir été avec nous. Est-ce que quand le président dit qu'il y avait un continent caché, on a libéré la parole, est-ce qu'il se fout de nous, le président de la République, ou pas? Oui, 93%. À suivre avec Sandrine Pégan, avec Jean-Loup Bonamy, avec Abel Boyi. Tiens, ça aussi. Et j'ai l'impression que le fil rouge, ça va être l'État, de toute façon. Ça revient régulièrement. La canicule. Là, maintenant, finalement, vous savez ce qu'on fait? On dit les écoles, on ferme pas. Finalement, ça va être un peu aux parents de se débrouiller sur l'école, garder les enfants ou ne pas les garder avec la canicule. La SNCF, on annule les trains parce qu'on n'arrive pas à assurer sur la clim. Est-ce que vous allez rester confiné? Allez, venez parler de la canicule avec nous au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Il est 9h25. Vous continuez de prendre la parole, comme Nasser il y a quelques instants, au 32-16. Maître Sandrine Pégan est là, tout comme le professeur de philosophie Jean-Loup Bonamy et Abel Boyi, l'éducateur. Canicule, école, travail, fête de la musique, on maintient, on annule. C'est la grande pagaille. Il va faire plus de 40 degrés. Est-ce qu'on s'y retrouve? Je sais pas. Dans tous les cas, est-ce qu'on doit se confiner? On me dit ça un peu sur le ton de la présenterie, mais on n'en est pas loin. Mais franchement, en ce qui concerne l'école, c'est un peu, comme dit le Vox Populi, article 42, débrouille-toi comme tu peux.
Exactement.
Parce que bon nombre d'écoles ne sont pas adaptées à ces fortes chaleurs. Des parents disent, moi, j'envoie pas mon fils ou ma fille dans la fournaise. des écoles au nom du principe de précaution, alors là, pour le coup, on peut les comprendre parce qu'elles sont pas adaptées, qu'on n'a pas fait les travaux, eh bien, elles décident de fermer. Et on dit aux parents, ben, vous faites comme vous voulez. Enfin, c'est les écoles qui disent, nous, on sera fermés. Est-ce que vous voulez garder vos enfants? C'est vraiment la grande débrouille, ou plutôt la grande pagaille à Belle-Boyer.
Exactement. Mais surtout que ça fait des années qu'on sait maintenant que le réchauffement climatique va arriver, qu'on va avoir des épisodes de chaleur importants, et on est incapable de prévoir. Chaque année, en fait, on fait des copier-coller du débat de l'année précédente. Moi, j'aimerais faire une dédicace spéciale à Sarah Le Bailly du collectif des Mères des Terres. Donc, c'est un collectif de mamans célibataires qui, lorsqu'une école ferme et qu'on dit justement aux parents, débrouillez-vous, déjà que c'est dur pour une mère célibataire, alors là, ça les exclut de la société totalement, parce que la maman, elle est obligée d'arrêter de travailler. Elle est obligée de trouver des solutions qui sont beaucoup plus difficiles à organiser que lorsque tu es en couple avec le conjoint qui est présent. Donc en réalité, c'est débrouillez-vous, parce que le gouvernement a juste peur qu'on lui mette sur le dos d'éventuels problèmes de santé ou d'éventuelles morts à cause de la canicule. Oui, c'est uniquement ça. Oui. Et à chaque fois, on nous refait le topo, regardez ce qui s'est passé en 2003. Non, au bout d'un moment, est-ce qu'on peut rentrer dans une politique de prévention et d'anticipation au lieu de toujours attendre des drames?
Surtout que là, cette vague de chaleur, elle était prévue depuis 10 jours. Donc, depuis 10 jours, tu pouvais anticiper. Certaines écoles pouvaient même se préparer. Je dis pas qu'il fallait acheter des ventilateurs en masse. On n'allait pas installer des climatisations, on y mettre des volets là dans les 10 jours. Mais seulement, tu pouvais au moins proposer aux parents des solutions alternatives en disant d'ici 10 jours, attention, on va affronter cette vague de chaleur. Anticiper, parce que t'as des parents, ils n'ont pas le choix, ils travaillent, ils n'ont peut-être pas de mode de garde à ce moment-là.
Exactement.
Et là, on est sur la fin de l'année. Donc, est-ce que vous allez garder vos enfants à la maison? Comment vous vous débrouillez? Est-ce que vous avez l'impression que finalement il faut dire, bon, écoutez, on a 3 jours à passer, vous savez quoi? Comme au temps du Covid, on se confine, on ferme, on fait plus rien. Jean-Loup Bonamy.
Ah bah, encore deux remarques.
Ah, on est là. Qui vas-tu citer?
Emmanuel Macron. Emmanuel, Manu.
Ça faisait longtemps.
Alors, ça faisait longtemps.
Justement. Lui, ça être son chiffre 2, c'est son chiffre pour nous.
Très bien, exactement. C'est une logique, voilà. Rythme binaire. Voilà. Ça, d'ailleurs, je faisais souvent des plans en 2 parties dans mes dissertes. Ah, pas trop l'avis du plan en 3 parties.
Je crois que c'est le protocole. Mais bon.
Et donc, non, c'est en 3 parties normalement pour la philo.
Introduction, développement, conclusion.
Non, mais introduction, développement partie 1, développement partie 2, conclusion.
Donc,
on fait quand même le lien entre cette affaire de canicule et les sujets précédents. Premier point, c'est notre ami Emmanuel Macron. Puisque je rappelle que l'une des grandes obsessions d'Emmanuel Macron depuis plusieurs années concernant l'éducation nationale, ce n'est pas la hausse du niveau qui s'est effondrée de manière stratosphérique, mais c'est les rythmes scolaires. Et notamment, Emmanuel Macron, toujours bien dans le timing, veut réformer les rythmes scolaires pour raccourcir les vacances, et notamment raccourcir les vacances d'été, et mettre des cours fin août. Alors je pense qu'avec les problèmes de réchauffement climatique et de canicule, le raccourcissement des vacances d'été et le fait de placer des cours à partir du 20 août ne me paraît quand même pas être l'idée du siècle. Justement, l'idée du 21e siècle, je pense que ce n'est pas les cours fin août, où ça sera vraiment infernal. C'est la première remarque. Deuxième remarque sur le titre, je vois vers un nouveau confinement, mais la France en fait ne rêve que d'une chose, n'attend qu'une chose, c'est d'être à nouveau confinée. Le problème, c'est que juste avant, on a parlé, et on va reparler, des violences sur les enfants. Or, le confinement pour le Covid, ça a été une catastrophe en termes de violences sur les enfants, termes d'abus sexuels par les parents.
Les violences,
voilà, on a enfermé les femmes ou les enfants avec leurs bourreaux. Mm-hmm. Il y a même eu le scandale là, qui est d'un enfant qui est mort pendant le confinement et qui avait très peur au moment où l'école s'est arrêtée, en disant « mais moi, je veux aller à l'école, parce que c'est un moment où je ne suis plus avec mes parents ». Et finalement, cet enfant est mort pendant le confinement. Donc là, si on ferme l'école pendant 3 jours, bah déjà, on n'assure plus la transmission des savoirs fondamentaux. Je crois que le niveau est quand même suffisamment bas pour qu'on puisse se poser la question. On enferme les enfants victimes avec leur bourreau potentiel. Hein? Donc, moi, on met, comme l'a dit Abel, les parents célibataires, les parents solos, les mamans solos, comme on dit aujourd'hui, ou les papas solos, en difficulté, en porte-à-faux. Donc, moi, excuse-moi, c'est l'école, c'est un service public, tu dois accueillir les enfants
toi,
sur la période
prévue. Malgré la canicule, pas touche à l'école, on s'organise pour
mettre
les enfants
de toute façon.
Mais bah, oui, très bien, c'est un service public.
C'est un service public.
Non, mais je suis d'accord.
C'est-à-dire qu'en théorie, le gouvernement doit déjà travailler à l'année prochaine.
Bah oui. Prévision.
C'est pas attendre mai, juin, juillet 2027.
L'année prochaine, tu sais ce qui se passe.
Même débat. Même débat sur le plateau.
Et surtout qu'il faut rappeler aussi que comment est-ce que, alors ça c'est le millefeuille français, c'est-à-dire que le bâti des écoles primaires
c'est les municipalités. Mm-hmm. Le bâti des collèges, ce sont les départements. Et le bâti des lycées, ce sont les régions. Exactement. Donc, si tu veux, le gouvernement aura beau dire, va peut-être dire, écoutez, on envoie une circulaire, la fameuse circulaire. Mais là, en l'occurrence, pour la logistique des écoles, le fait qu'elles soient, pour les enfants, aérées, rafraîchies, là, c'est aux municipalités, au contraire, d'anticiper pour l'année prochaine.
Et dire, voilà ce qu'on va faire. Excuse-moi, il me semble qu'il y a un certain nombre de pays dans le monde dans lesquels il fait chaud. Et une bonne partie de l'année.
Et les enfants sont à l'école quand même.
On n'arrête pas l'école. Et en plus. Parce qu'il fait chaud, quoi.
Tout à l'heure, tu parlais du rythme scolaire. On n'avait pas un ministre de l'Éducation qui nous avait proposé de faire commencer nos enfants à 9h? Donc là, alors peut-être qu'on pourrait les faire commencer à 6h du matin, parce que s'il fait trop chaud, tu vois, tant qu'à faire. Non, mais au bout d'un moment.
Si, école de 6h à 10h, voilà, et ensuite, c'est fini. Non, mais tu as raison. Aujourd'hui, c'est un problème d'anticipation et on ne doit pas renoncer au service public.
Bah oui.
Sinon, c'est la faillite de nos services publics.
Bien sûr.
Là, c'est comme pour les trains que l'on annule. 71 trains que l'on annule parce qu'on a peur que les climatisations tombent en panne. Donc, les gens sont obligés de se débrouiller en boîte.
Vous n'avez pas l'impression qu'on est un peu dans une espèce de paradoxe, parce que d'un côté, on est dans la mise en garde à tout prix. Tu reçois des SMS de ta mutuelle pour te dire canicule, attention, il va y avoir orage, etc. Donc, on a l'impression d'être infantilisé. Et puis, d'un autre côté, tu as l'État qui nous délaisse comme ça, qui n'anticipe rien, qui fait aucun travaux pour les bâtiments publics. Et c'est tout le monde qui en pâtit.
On a Anthony qui veut réagir. Il nous appelle de la Nièvre, Nevers. Bonjour, mon cher Anthony.
Bonjour Alain, bonjour les ingénieurs.
Comment vous allez-vous avec les enfants? Alors, vous allez vous confiner, vous allez garder les enfants, ils vont à l'école, je sais pas, dites-moi.
Alors, je suis papa célibataire d'une petite fille qui est en CM1, dans une commune de la Nièvre. Donc, après 20 ans de non-travaux, ils ont enfin fait des travaux dans une des deux écoles. Donc, il y en a une des deux écoles qui a été rénovée et qui est en capacité d'accueillir les enfants. Mais l'autre école, qui est complètement vétuste, nous a prévenus mercredi à 17h, que l'école fermerait jeudi à midi.
Alors, juste, c'est fou. Ça veut dire quoi, complètement vétuste, Anthony, qu'on comprenne bien, quoi, en fait?
Eh ben, il n'y a aucun volet, aucun rideau. Les murs, c'est du papier à cigarette. Ça se voit à l'œil que ce n'est pas des conditions acceptables pour nos enfants. Ouais. Ça se voit.
Est-ce qu'ils ont prévu des. Il n'y a même pas, je ne sais pas, un achat de ventilateurs, vous voyez, pour mettre dans la salle de classe, les ventilateurs qu'on peut acheter au supermarché, ça vaut 20 euros.
Oui, sauf qu'on nous dit que quand il fait chaud, le ventilateur, ça sert à rien.
Ouais.
Ils ont mis des bâches triangles dehors devant les vitres pour protéger du soleil. Ils ont fait ça dans l'année dernière, mais non, il n'y a rien d'autre. Mais le problème, moi, j'aimerais bien que, avant de prendre des décisions, il y ait une solution en face. Il faudrait au moins une salle dans chaque commune pour accueillir les enfants et les personnes âgées, une salle climatisée au moins dans chaque commune.
Pour les personnes âgés, dans tous les cas, en ce qui concerne les maisons de repos ou les EHPAD, il y a une obligation d'avoir une pièce climatisée aujourd'hui. Mais
moi, je parle d'une salle communale.
Je comprends.
Où on peut accueillir dans l'urgence certaines personnes.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on répond du côté de la municipalité sur l'école, justement, sur le fait...
J'ai demandé quelles étaient les solutions apportées, que moi, je ne pouvais pas me retourner dans un délai si petit. Eh bien, j'attends une réponse, il n'y en a pas de réponse.
Anthony, je vous remercie de cet exemple.
J'aimerais communiquer une petite information à Anthony.
J'ai hâte.
Enfin, c'est une information parmi d'autres, mais je tiens à dire que depuis quelques années, j'ai vu ça, la France, c'est une cause noble, mais la France a un ambassadeur aux droits LGBT qui est pour s'occuper de la question dans le monde, et que c'est un poste à plusieurs millions d'euros. Donc on peut dégager plusieurs millions d'euros.
Et pour la suppression de ce poste.
Tout à fait. Pour s'occuper.
Mais ça n'empêche pas.
Pour s'occuper du droit des homosexuels kirghizes.
Mais attends, tu peux pas aller
à l'autre bout. Non, mais c'est à l'autre bout du monde quand même. C'est pas notre sujet. Pour s'occuper du droit des homosexuels kirghizes au fin fond de la steppe. Mais par contre, il n'y a pas d'argent pour la rénovation de l'école des enfants d'Anthony dans la Nièvre.
Mais de toute façon, même outre cet exemple folklorique et provocateur, je pense que tu fais exprès.
Ah non, je pense que...
Vraiment sincère.
Moi, je pense qu'il faut arrêter...
C'est rationaliser les dépenses.
Rationaliser les dépenses et s'arrêter de s'occuper de tout ce qui est en dehors de nos frontières.
Mais même au-delà de ça, ne paie-t-on pas assez d'impôts, bordel, pour avoir le droit d'exiger des services qui fonctionnent
normalement,
au bout d'un moment, c'est trop. Qu'est-ce qu'il faut faire au bout d'un moment pour se faire entendre? Mais les Français, dans ce domaine-là aussi, vont péter un câble.
C'est pas comme si on avait eu une canicule en 2003, par exemple.
Il y avait plusieurs
milliers de morts et que des rapports
des
ministres de l'écologie, des colloques,
des Grenelles.
La convention citoyenne ou le Grenelle de l'écologie nous est averti qu'effectivement, on allait avoir des canicules à répétition.
Mais Abel a raison. On était le pays dans le lequel la dépense publique est le plus élevée au monde. Oui. La dépense publique en France est supérieure à ce qu'elle était en URSS. Tu es l'un des pays les plus taxés au monde. Et il y a un dysfonctionnement complet des services publics, surtout la justice, la canicule, l'entretien des écoles. Et les Français ont le sentiment de ne pas en avoir pour leur argent. Et ils ont raison.
Sonia veut intervenir et je remercie Anthony de nous avoir donné l'exemple de la Nièvre. Bonjour Sonia de Ille-et-Vilaine. Dites-moi, il fait un petit, est-ce qu'il fait un poil plus frais en Ille-et-Vilaine, un poil?
Ah, pas du tout. Alors là, pas du tout. Moi, j'ai déjà vécu l'Alsace pour arriver en Bretagne pour avoir du frais. Et en fait, non, il fait aussi chaud partout.
L'océan n'est plus ce qu'il était.
C'est ça, voilà. Non, il fait très chaud aussi ici. Et on tape à des 36, 37 autant l'après-midi quand il fait très, très, très chaud. Ouais.
Mais dans les classes, vous, du côté de chez vous, qu'est-ce que ça donne alors dans les écoles?
Justement, il fait très chaud. Mon fils et ma belle-fille, du coup, la fille de mon compagnon, sont dans deux classes dans la même école. Et il fait très chaud. Déjà, c'est une vieille
Combien?
École. Donc c'est, là, ils étaient à 36.
36 dans l'école, dans la classe.
Dans la classe, ouais. Donc voilà, là on reçoit un mail ce matin de la direction de l'école pour nous dire que la semaine prochaine, si on peut garder nos enfants à la maison, c'est mieux de les garder.
Et est-ce que vous le pourrez?
Après moi il est grand, il a 11 ans, donc oui. Ma belle-fille elle a 9 ans, donc là ça va être la semaine chez sa maman, donc je pense que oui, elle va rester. Elle va rester à la maison. Donc, quand on peut, oui, quand ils sont assez grands. Mm-hmm. Mais quand ils sont petits, je me dis, c'est compliqué. Donc, oui, exactement. Comme ce que disait Anthony avant, il faudrait une salle communale ou une salle, en tout cas, adaptée et climatisée pour les accueillir. Parce que, c'est pas vivable. Je veux dire, même, comme ce que je disais au standard, ils leur disent, oui, mais alors, vous devez mettre une casquette, vous devez ramener la crème solaire, vous devez avoir une gourde. Ça, c'est pas de souci. Ils ont tout ça. Mais de toute façon, ils les font jouer à l'ombre, quoi qu'il en soit. Mm-hmm. Et heureusement.
Alors, encore deux.
Heureusement, oui. Ouais. Mais ils les mettent sous le préau et au final il fait de toute façon aussi chaud qu'en classe, donc je me dis bon. Après c'est vrai qu'ils sont dehors. Nous je sais que l'année dernière ma fille quand elle était encore au lycée, ils ont pu faire cours une fois dehors tellement il faisait chaud dans les classes. Ils les ont sortis et ils faisaient cours dehors.
Et Sonia, ils sont 39 dans la classe de votre fils? 39?
Non, il fait 39.
Il fait 36 dans la classe. 36.
Ah, pardonnez-moi. Ouais.
J'ai mal lu, j'ai pas mes lunettes. Non, non, ils sont 26.
Ouais, mais vous voyez, du coup, effectivement, c'est comme on le dit, c'est-à-dire que comme on est face à l'échec institutionnel, eh bien, on s'en remet à qui? Aux parents. C'est-à-dire, on dit aux parents, si vous pouvez garder vos enfants, c'est mieux. On ne peut pas les prendre à l'école. C'est l'échec du service public.
C'est
l'échec du pilier républicain, comme le disait Jean-Loup Bonnamy aujourd'hui.
Sur la justice, sur l'hôpital, surtout sur l'aide à l'enfance.
De toute façon, moi, pourquoi je mets pas mon fils la semaine prochaine? Déjà, là, on est dans une maison très mal isolée où les enfants dorment à l'étage au niveau des Vélux, il fait une chaleur pas possible.
Ce qui est terrible, c'est qu'on fait on fait un chantage qui est cynique. C'est-à-dire en disant, est-ce que vous préférez que votre fils, c'est ce qui est sous-entendu, il fasse un malaise à l'école ou vous préférez le garder à la maison? Donc c'est d'un cynisme absolu parce que bien évidemment, on se dit dans ces cas-là, je vais garder mon fils à la maison face à votre échec aujourd'hui. Sonia, je vous remercie d'avoir été avec nous, tout comme Anthony.
À bientôt,
merci. Sonia. À bientôt dans les GG. On a posé la question un peu provocatrice. Est-ce qu'on se retrouve du coup à se confiner? Est-ce que vous allez vous confiner? Non, face à la canicule. À plus de 60%. Enfin, on a quand même un tiers qui préfère rester à la maison. Allez, dans un instant, on s'en fout pas, il est 10h20.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, avec Jean-Loup Bonamy, avec Sandrine Pégan, avec Pégan.
Je dis avec Pégan parce que
en podcast, vous découvrirez ce que les GG pensent de leur prénom. Et Sandrine Pégan n'aime pas son prénom.
On en a fait un podcast.
Vous découvrez ça sur l'appli RMC. Donc maintenant, on va l'appeler Pégan. c'est parti pour l'on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
C'est la Sainz qui est là. Bonjour.
Bonjour Marshall, bonjour les GG, bonjour à tous.
Salut Ananas.
Les GG, tout le monde me trahit, tout le monde me lâche les propos que Patrick Bruel aurait tenus à ses proches selon Paris Match. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Abel?
On s'en fout pas.
Sandrine?
On s'en fout pas.
Jean-Loup.
Je m'en fous complètement.
Je vais me battre jusqu'au bout pour prouver mon innocence. La plupart de celles qui ont déposé des plaintes ont menti. Certaines ont inventé des faits, d'autres ont changé plusieurs fois de version. Il n'y a aucune violence de ma part, car je sais que quand c'est non, c'est non. Pourquoi tout le monde veut ma mort? Pourquoi tout le monde cherche à me détruire à ce point? Tout le monde me trahit, tout le monde me lâche. Voilà ce qu'a déclaré à son entourage le chanteur accusé de viol et d'agression sexuelle. Selon Paris Match, Abel, pourquoi tu t'en fous pas?
Il a raison de dénoncer l'hypocrisie, mais moi je dirais dans l'autre sens. Moi je dénonce l'hypocrisie justement des gens qui disent on savait et qui l'ont couvert pendant toutes ces années. Quand vous avez une victime, vous avez toujours ce processus. Vous avez une victime, un agresseur, même si on respecte la présomption d'innocence, et toujours un entourage professionnel, familial, social, qui applique la règle des trois singes. J'ai rien vu, j'ai rien dit, j'ai rien entendu. Et dès qu'il y a un scandale médiatique, ce même entourage maintenant dit on savait, on a vu, fallait parler sur le moment, et c'est ça qui met la conclusion.
Quelqu'un est un peu forceur sans que ce soit un violeur ni un agresseur
sexuel.
Oui,
mais moi je dénonce l'hypocrisie
de toutes les personnes.
Non, mais forceur,
insistant, tu veux dire.
Oui,
voilà.
D'accord, mais quand on le sait, quand des
hommes. Après, il y a forceur quand tu invites quelqu'un chez toi et que.
C'est pas ce que je dis.
Et que tu arrives en slip devant la personne.
Non, mais évidemment, c'est juste que quand les gens disent qu'ils savent, c'est souvent qu'on assiste à des dragues lourdes, des trucs comme ça, mais ils rentrent pas, on ne connaît pas l'intimité.
Mais justement, c'est pour ça que moi je dis qu'une partie de cet entourage est hypocrite et veut avoir le bon rôle maintenant en disant on va le clouer au pilori, fallait parler sur le moment et ne pas laisser d'éventuelles victimes souffrir.
Sandrine. Moi, je trouve qu'il est dans sa logique de défense, puisqu'il dit qu'il va s'efforcer à démontrer que chacune ment. Et je me mets à sa place, ou en tout cas, pas forcément à la sienne, mais dans le sens où on est accusé de quelque chose dont on sait pertinemment qu'on est innocent. Évidemment qu'on va se battre, évidemment qu'on veut aussi tout démonter. Non, ça c'est autre chose. Si tu sais que t'es innocent, mais que en fait tu es dans le déni parce que finalement tu peux cacher ça au reste du monde, ça c'est autre chose. Et puis le déni après peut faire en sorte qu'à un moment donné tu révèles aussi et tu prennes conscience des choses. Mais là, lui, sa logique, c'est de dire je vais me battre jusqu'au bout, je vais prouver mon innocence. Il avait du succès, c'était un homme qui pouvait avoir toutes les filles qu'il voulait. Maintenant, est-ce que c'était un prédateur ou non? Et ben l'enquête le déterminera, mais moi je trouve qu'il est dans sa logique de défense.
On enchaîne.
Fête de la musique plus canicule, le combo explosif qui inquiète Laurent Nunes, le ministre de l'Intérieur, prévient qu'aucun débordement ne sera toléré. On s'en fout ou pas, Sandrine?
On s'en fout pas.
Jean-Loup?
Allez, on ne s'en fout pas.
Abel?
On s'en fout.
Les violences lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions sont encore dans toutes les têtes, place Beauvau. Laurent Nunes pointe un risque le soir de la fête de la musique dimanche, inhérent à ce type de manifestation, risque d'une délinquance d'opportunité visant les personnes et les biens. La fête de la musique pourrait aussi être propice à un épisode de violence urbaine, notamment en fin de soirée, et qui pourrait être amplifié dans le contexte de la Coupe du Monde. Jean-Loup.
J'adore, inhérent à ce genre d'événement. Moi, il me semble que si tu faisais un événement de ce type-là au Japon, il n'y aurait pas le moindre problème. Tu ferais ça à Singapour ou à Dubaï, il n'y aurait pas le moindre problème. On a vu justement au moment du PSG, la victoire du PSG, les scènes en Hongrie, puisque c'est là où avait lieu le match, il s'est absolument rien passé. Donc faut arrêter de dire que c'est inhérent.
Et même il y a 20 ans en France, les fêtes de la musique,
faut arrêter de dire que c'est inhérent à ce type d'événement. C'est qu'il y a un problème dans la société française et un problème que justement le ministre est censé régler, mais qu'il ne règle pas. Il n'est pas le premier d'ailleurs. Et de toute façon, il peut rien faire, parce que si jamais on arrête d'éventuels délinquants, d'éventuels semeurs de troubles le soir du 21 juin, il n'y a pas de place dans les prisons. Elles débordent. Emmanuel Macron avait promis d'en construire en 2017. Elles n'ont pas été construites. Donc, les prisons débordent. Les magistrats ne peuvent pas envoyer les délinquants dans des prisons qui sont suroccupées et sursaturées. Et donc, et ça, les délinquants le savent très bien. Donc, en fait, tu peux rien faire puisque t'as pas de vrais moyens de sanction.
Ce qui est terrible, c'est que Laurent Nunes dit la même chose avant la finale de la Ligue des Champions, oui. Il dit la même chose avant une manifestation, il dit la même chose avant la fête de la musique. Alors je comprends, c'est ce qui est normal. Mm. C'est le ministre de l'Intérieur, donc il est là, il prévient, mais malheureusement, il faut s'interroger pourquoi. Malheureusement, ça dérape. Malheureusement, il y a des affrontements.
Donc, mais j'ai fait ça. Un tweet.
Donc, peut-être qu'on on se fout de la parole. Je pense que d'ailleurs ceux qui les délinquants, ils se foutent complètement de ce que dit Laurent Nunes.
Mais j'ai fait un tweet, je me suis adressé au président syrien Ahmed Al-Sharaa, ancien djihadiste, mais homme d'ordre.
Je lui ai demandé.
Toujours de bonnes références.
Et de bons interlocuteurs.
Face aux difficultés rencontrées par At Laurent Nunez, voulez-vous assurer l'ordre lors de la fête de la musique du 21 juin ? J'attends sa réponse, mais je pense qu'en effet, on pourrait lui déléguer, vu que nous-mêmes, nous sommes en échec total.
Tu sais, on n'est pas obligé d'aller chercher le président syrien.
C'est-à-dire que
moi, je l'adore.
Je sais pas pourquoi.
C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de fête de la musique du tout, si tu veux.
Parce qu'il entame un processus de libéralisation de son pays.
Il a bien changé.
Il y a eu le marathon de Damas. Je t'invite à voir les images du marathon de Damas.
En même temps, cette fête de la musique ne sert à rien. Il était affilié à Al-Qaïda.
À Idlib, oui, bien sûr.
Idlib, effectivement, il y a la charia s'imposer.
Mais en tout cas, il m'a l'air plus efficace pour maintenir l'ordre
que Laurent Nunez.
Sandrine. Non, moi, la fête de la musique, moi, ça m'agace au plus haut point. Je n'y ai jamais participé. Et figurez-vous qu'il y a même.
Parce que ça a été inventé par Jack Lang.
Pourquoi ?
Hashtag Epstein.
Quel rapport ? Non, rien à voir. C'est que je trouve que les mini-concerts qui sont faits sur dans les rues, ils ressemblent à rien du tout. C'est une musique qui est nulle. Je trouve que les gens en profitent pour pouvoir se mettre... Et figurez-vous qu'il y a même un confrère qui a été suspendu, donc un avocat qui a été suspendu parce qu'il avait fait de la mandoline le soir de la fête de la musique sur une place du marché. Il a été suspendu parce que c'était contraire à la dignité de la profession d'avocat.
Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Bien sûr. Parce que même dans notre vie de tous les jours, on doit être digne de porter la robe. C'est-à-dire que
quand tu sors du palais et que tu te mets sur une place publique pour faire un concert ou quoi que ce soit, tu peux être réprimandé pour ton attitude.
C'est l'ordre des avocats.
C'est l'ordre des avocats qui l'a suspendu. Je vous parle de ça il y a quelques années. Alors, c'était en province.
Il faudrait voir comment il jouait de la mandoline. Peut-être que c'était au nom de la salubrité publique qu'il massacrait les morceaux.
Je n'ai pas les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, c'est une vraie anecdote. C'est pour dire que voilà. Donc cette fête de la musique ne sert à rien. En attendant, combo, chaleur, fête de la musique, moi, ça me va très bien. Je prêche pour ma paroisse. Je sais qu'à partir de mardi, puisque s'ils sont placés en garde à vue dimanche, à partir de mardi, peut y avoir une comparution immédiate. Donc des honoraires qui rentrent au cabinet. Donc,
ça peut être une bonne chose.
Donc, Pégan sera sur le pont.
Abel.
Ah, j'avais répondu que je m'en fous, mais sinon.
Non, mais c'est fini. Mais oui, tu sais pourquoi ? Parce que je dois vous rappeler quelque chose d'important. La prime de match de 67 500 euros, elle a été gagnée hier. C'est Anthony qui a été appelé. Anthony avait la somme de 67 500 euros net d'impôts, puisque c'est du gain de jeu. On peut vous dire que le père Anthony, il était plutôt content. Mais comme la Coupe du Monde continue, qu'RMC est la radio officielle de la Coupe du Monde, on remet une prime de match. À partir de lundi, prime de match de 30 000 euros. Lundi, c'est le jour du match des Bleus de l'équipe de France contre l'Irak. Donc, on remet une prime de match à partir de lundi. 30 000 euros, elle grossira à chaque but de 500 euros. Jusqu'où va-t-elle aller ? Si vous voulez gagner cette somme, cette prime de match, vous pouvez envoyer but dès maintenant par SMS au Anaïs
7-32-16.
Exact. But par SMS au 7-32-16. C'est le temps d'inscription. 30 000 euros seront à gagner à partir de lundi et 500 euros par but marqué. Vous savez comment ça fonctionne. Vous êtes inscrit. Ensuite, on appelle en aléatoire et il faut donner la somme. Et on repart avec les 30 000 euros. Envoyez but par SMS au 7-32-16. Restez avec les GG dans un instant. L'assassinat du gros du roi. L'octogénaire tué par un jeune de 15 ans. Qu'est-ce qu'il a dit aux policiers, aux gendarmes ? Il a reconnu. Il a dit « Je voulais faire du mal ». Aucun antécédent, gamin sportif, il voulait faire du mal. 32-16.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.